20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, mais où en sont les militants d'En Marche, toujours à fond derrière Emmanuel Macron, mais quelque peu déçus par l'écoute au sein de leur propre mouvement? C'est ce que révèle l'enquête réalisée par le think tank Terra Nova que vont détailler nos informés ce soir. En attendant le remaniement, sans doute demain, Emmanuel Macron tente de relancer la machine. Édouard Philippe pourrait s'exprimer tout à l'heure depuis Lyon. Certains ministres, en tous les cas, doivent trembler. Les grandes manœuvres à la droite de la droite en vue des européennes. Marine Le Pen est allée visiter Matteo Salvini à Rome. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, est à la porte du pouvoir, ce qui enchante les marchés financiers. Nous reviendrons sur le rapport forcément alarmant du GIEC. Les experts du climat, et si la Terre brûlait plus vite que prévu? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue, Raquel Garrido.
Bonsoir.
Avocate à Paris, désormais chroniqueuse au Terrien du dimanche chez l'ami Ardisson sur C8 et auteur du manuel de guérilla médiatique paru chez Michel Lafon. Avec nous également, bonsoir Bruno Cotterêts et bienvenue Bruno.
Bonsoir.
Chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes l'un des auteurs du rapport de Terra Nova dont il était question sur les militants de la République En Marche. Et avec nous ce soir, nos deux partenaires du lundi que j'ai plaisir à retrouver. Bonsoir à vous, François Dorcival.
Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir Stéphane Vernet.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Alors il va falloir patienter jusqu'à demain. Emmanuel Macron et Édouard Philippe mettent une ultime touche au remaniement. Pourquoi est-ce que cela dure? Benjamin Griveau, le porte-parole du gouvernement, était l'invité des questions politiques sur France Inter hier.
Prendre le temps de choisir les bonnes personnes. Depuis le premier jour, dans ce gouvernement, on choisit des gens compétents. Pas parce qu'ils ont telle étiquette politique, pas parce qu'ils vous ont soutenu à un congrès obscur il y a 15 ou 20 ans, ou parce que, au fond, ils seraient... votre inféodé. On prend des gens compétents. Et donc, on prend aussi des gens qui sont issus de la société civile. Et que ça nécessite un examen de la Haute Autorité pour la Transparence de la République, les mêmes qui nous disent ça prend trop de temps, pointeraient du doigt les conflits d'intérêts qui n'auraient pas été levés dans le cadre de l'examen préliminaire.
Allez, Raquel Garrido, honneur aux dames, hein, vous n'êtes pas concernée, vous n'avez pas été approchée pour rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Non, je vous rassure Jean-François.
Pourquoi est-ce que ça vous paraît durer, ça vous paraît compliqué ou c'est comme d'habitude?
Non, c'est pas du tout comme d'habitude. C'est quand même exceptionnel, la vacance du pouvoir au ministère de l'Intérieur et le fait que tranquillement, on considère que finalement, on peut se passer d'un ministre de l'Intérieur pendant de longues heures et de longues journées. C'est absolument inédit. Et ce que ça montre surtout, c'est que en Ve République, la concentration du pouvoir sur la tête du président de la République vous provoque un gouvernement faible en réalité, un gouvernement d'apparat. Et donc les positions sont remplies par des gens qui sont censés incarner une fonction à la tête d'une administration. Mais on a vu avec l'affaire Benalla que, clairement, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il y avait des voies infra-hiérarchiques directement d'Élysée au niveau des services. Donc le ministre de l'Intérieur est là pour dire amen à un président qui dirige tout. Et je ne sais pas qui est vraiment volontaire pour mener ce type de fonction.
François Dorcival, dans ce casting, pardon pour l'anglicisme, ça manque un petit peu de talent? Il y a des compétences à trouver? Ou alors, c'est un trop plein, il faut trouver...
Vous connaissez déjà la liste alors?
Non, mais je sais qu'on qu'on dit régulièrement qu'aujourd'hui, il y a peut-être une difficulté à trouver telle ou telle personnalité pour occuper les postes en question.
Vous avez écouté Benjamin Griveau. Oui. Il vous a dit, ce sont tous des gens compétents. Mais on a ajouté toute une série de critères nouveaux qui font que la complication arrive aussitôt. Un, vous êtes un homme ou une femme? La parité. Maintenir la parité. Deux, vous venez de la société civile? Ah oui, mais la société civile, d'où? Quelle est votre origine? Ensuite, effectivement, la Haute Autorité pour la transparence financière de la vie politique, etc. Et puis enfin, on termine en se posant probablement la question, est-ce qu'il va conduire une action politique? Est-ce qu'il va pouvoir incarner dans le département qu'on va lui confier, le département ministériel qu'on va lui confier?
Portefeuille,
est-ce que, oui. Est-ce que il va être en mesure non seulement d'incarner cette politique, mais de la négocier, mais de la porter au Parlement, etc. Tout ça, ça fait un nombre de critères considérables quand on sort de la politique elle-même. Ouais. Je veux dire, évidemment, quand vous avez des gens qui sont formés à la politique, c'est plus facile que quand ce n'est pas le cas.
Alors Stéphane Vernier, est-ce que le président brûle sa cartouche remaniement trop tôt ?
Je ne sais pas s'il la brûle trop tôt, mais ce qu'on avait compris, c'est que après le départ fracassant de Nicolas Hulot, en fait, il était question de dire que non, c'était un problème individuel. C'est un ministre qui se sentait pas bien. Il a pété les plombs en direct, mais le bilan est bon, l'action du gouvernement est bonne, et donc on change pas une équipe qui gagne. Et donc on avait tous compris que le remaniement se ferait après les européennes, donc l'année prochaine, au printemps 2019. Et là, patatras, on a le second ministre d'État, le deuxième, hein, parce qu'il n'y en a que deux des ministres d'État dans ce gouvernement, qui part dans les mêmes conditions que Nicolas Hulot. Et là, finalement, on ne nous resserre pas le discours « non, mais on ne change pas une équipe qui gagne ». Et donc, on voit bien qu'au niveau du président, du Premier ministre, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ministres qui font pas le job, soit ils sont cuits, ils sont fatigués, soit il y a eu des erreurs de casting, et autant en septembre ils ne osaient pas se l'avouer, autant aujourd'hui je crois qu'ils se le disent. Le problème c'est que si c'est long, c'est que puisque c'était ça votre question, si oui. C'est long, il faut trouver les bonnes personnes qui ont un patrimoine qui pose pas de problème, etc. Il faut trouver les bons tandems, parce que vous avez certains ministères où ils sont deux. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministre d'État, il avait une ministre qui était rattachée à son ministère, qui était Jacqueline Gourault, par exemple. Donc,
si bah on normalement, il faut la maintenir, parce que oui. Si jamais c'est un homme, il faut que ce soit une femme.
Ou la changer, mais... Voilà, donc il y a ce genre de choses à prendre en compte. Et puis, si ça prend aussi un peu de temps, donc c'est complexe, je pense qu'ils veulent pas refaire des erreurs de casting qu'ils ont vécues, ah oui, avoir un gouvernement resserré de combat qui fonctionne cette fois-ci, ouais. Et repartir au front.
Si
et
c'est puis, le cas, c'est pas de la société civile. Hein.
Bon. Alors, et bon. On sent bien qu'ils veulent garder une proportion aussi société civile, mais du coup, si ça prend du temps aussi, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas prêts maintenant. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça que c'est long.
Bon, Bruno Cotterêts, c'est promis, hein, vous allez vous exprimer juste après le rappel de l'info à 20h10 sur France Info avec vous, Romain Dezec.
Le braqueur Redouane Faïd entame une grève de la faim. Il demande la libération de ses proches. Son frère, deux de ses neveux et sa logeuse sont placés en détention provisoire, soupçonnés de l'avoir aidé dans sa cavale. Redouane Faïd est actuellement emprisonné à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, une des prisons les plus sécurisées du pays. Un homme de 35 ans tué, deux autres grièvement blessés par balle à Toulouse cet après-midi. Deux hommes en scooter ont tiré en direction de la terrasse d'un bar situé dans le quartier sensible Papus. Les auteurs sont en fuite. Les magasins de jouets Toys R Us, repris par un fonds américain en partenariat avec la société française Pickwick. 44 magasins et plus de 1000 salariés sont conservés. Le repreneur s'engage à investir 70 millions d'euros. Réduire les émissions mondiales de CO2 de moitié d'ici 2030, c'est l'une des conditions pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré selon le GIEC, le groupe d'experts sur le climat qui a rendu son rapport plutôt alarmant. Au rythme où nous allons, la hausse de température sera comprise entre 3 et 5 degrés à la fin du siècle selon l'Organisation météorologique mondiale. Et clin d'œil à ce rapport, le Nobel d'économie récompense deux Américains, William Nordhaus et Paul Romer, tous deux récompensés pour avoir mis au point des méthodes alliant croissance et écologie. Beaucoup de pluie attendue cette nuit dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude, une vigilance orange avec un risque d'inondation. Des orages sont également attendus.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Bruno Cotterêts, avant d'évoquer le rapport Terra Nova, juste une question avec vous. Vous pensez que ce remaniement peut gommer les épisodes de Ben Alain, Hulot et également l'épisode lyonnais du gouvernement ?
C'est sans doute l'un des objectifs. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'au fond, on a déjà vu par le passé des remaniements ministériels qui n'ont pas vraiment l'effet escompté. Il y a même des remaniements ministériels qui ont eu lieu et quelques semaines ou quelques mois plus tard, le gouvernement va finir par perdre des élections. C'est pas évident parce qu'au fond, les Français, quand ils regardent l'action du gouvernement, bien sûr qu'ils sont sensibles à celui qui porte, à la personne qui incarne une politique publique, mais c'est quand même avant tout le fond. de quoi cette politique publique parle. Bien sûr, s'il y a un porteur du projet d'une politique publique qui est quelqu'un de charismatique, qui est quelqu'un de populaire, qui est quelqu'un qui a plutôt une bonne image, très bien. Mais en ce moment, dans l'électorat
genre
en
Hulot,
France,
quoi.
Voilà, en ce moment en France, c'est pas vraiment le problème. Le problème,
mais le plus dur à remplacer, c'est quand même Gérard Collomb, non? Dans cette histoire, franchement.
Oui, je suis pas sûr que ce soit nécessairement le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il faut quand même quelqu'un qui a du poids politique, ou au minimum quelqu'un qui a un certain sens de la politique. Ça peut être quelqu'un qui vient de la société civile, s'il a un certain sens politique.
Alors Bruno Cotresse, l'étude fait 200 pages, hein. Son titre, La République en marche, anatomie d'un mouvement, c'est une somme. Hein. Cette enquête du think tank Terra Nova, à laquelle vous avez participé, vous êtes l'un des co-auteurs, donc, et que l'on peut consulter en ligne, hein. Il n'y a pas de problème sur franceinfo.fr notamment. Les marcheurs donc massivement soutiennent Emmanuel Macron, sans surprise, mais à une majorité peut-être des adhérents de La République en marche, estime peut-être que, ou peut-être pas une majorité, en tout cas un certain nombre, on va dire, estime qu'il y aurait peut-être des choses à changer au sein de l'AREM. Mais d'abord, pour poser le débat, qu'est-ce que l'ADN des adhérents marcheurs? Question posée ce matin à Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale.
Oui, on a un ADN qui est plutôt libéral. Mais
des gens pour qui, finalement, c'est facile de traverser la rue. Mais pour aller trouver du boulot ailleurs.
Mais enfin, on ne connaît pas le parcours de ces gens. On dit, voilà, vous avez un parti, vous avez des gens qui sont surdiplômés. Est-ce que ça veut dire qu'ils viennent tous de la même origine sociale? Absolument pas. On n'en sait rien. Et moi, je vois, par exemple, à l'Assemblée, la manière avec laquelle notre groupe est composé, on a une diversité sociologique qui est importante, une diversité de métiers, de parcours, de sensibilité aussi politique qui est importante. Et encore une fois, on ne fait pas de la politique pour ses adhérents. On fait la politique pour l'ensemble des Français.
Très concrètement, Bruno Cotresse, les marcheurs, les adhérents de La République En Marche, des cadres supérieurs, des diplômés?
Alors on
a observé, chiffres, hein.
Oui bien sûr, nous on a observé bien sûr à la fois la sociographie, la sociologie des adhérents de La République En Marche, mais aussi les valeurs politiques, les idéologies dans lesquelles ils croient. On voit qu'au plan sociologique, il y a une forme d'homogénéité. C'est plutôt une France, globalement on va dire, disons-le, qui va plutôt bien. Des gens qui sont diplômés, notamment qui ont investi dans le capital culturel, dans leur vie, dans l'école, dans l'université, dans l'éducation, qui portent d'ailleurs très souvent beaucoup d'attachement à la question de la formation. Sociologiquement, ça va plutôt bien, c'est une France, il est vrai, qui va plutôt bien. Par contre, il y a de la diversité politique à l'intérieur de La République En Marche. Il y a du ciment idéologique et il y a du ciment politique. Ça, notre enquête l'a clairement identifié. La question de la tolérance culturelle, la question de l'Europe, notamment. Mais à l'intérieur de ça, ben, il y a bien sûr différents profils, une certaine diversité politique.
Il y a une vraie diversité.
Oui, il y a une vraie diversité. D'abord, pour une raison toute simple. Les marcheurs viennent bien de familles politiques qui existaient auparavant. L'organisation En Marche a été créée au printemps de 2016 par Emmanuel Macron. Donc une partie des marcheurs, soit n'avaient jamais fait de politique, mais il y a aussi des anciens adhérents socialistes, il y a des anciens adhérents républicains, il y a des anciens MoDem dans La République En Marche aujourd'hui. Eh bien, les valeurs dans lesquelles ils croyaient n'ont pas disparu d'un coup de baguette magique. Et c'est ça, je pense, tout le pari pour La République En Marche, faire de ses adhérents des marcheurs.
Oui, on va poursuivre avec vous l'analyse de cette enquête, hein, de Terra Nova. Juste une réaction avec vous, Raquel Garrido. Ce ne sont pas exactement les mêmes profils que ceux que l'on trouve au hasard au sein de la France Insoumise, par exemple.
Je ne sais pas. Il faudrait que le CEVIPOF fasse une
enquête
analogue.
Il n'y a pas eu d'enquête équivalente.
Non, que je sache.
Ça serait formidable qu'il y ait une enquête équivalente conduite sur la France Insoumise. Voilà. Ça, c'est clair.
Mais c'est évident que En Marche a ceci de particulier, que cette aventure politique est une réunification de l'oligarchie, si j'ose dire. C'est-à-dire que les gens viennent des Républicains ou du PS ou du Centre, c'est, en fait, ils pensent quand même la même chose sur le plan économique. Après, il peut y avoir des nuances, et d'ailleurs, on le voit dans le rapport, dans l'enquête du CEVIPOF, mais fondamentalement, ils sont plutôt d'accord avec un système qui a été, pour eux, un vecteur de réussite individuelle, dans un contexte de croissance du chômage, voilà, des incertitudes, de l'angoisse. Eux, ils sont comme ça un petit espace préservé, et ce qui montre la difficulté aujourd'hui pour un citoyen qui est exclu du monde politique de se faire entendre. Parce que si les gens qui animent les partis sont précisément ceux pour qui tout va bien, alors comment on fait qui s'occupe de ceux qui s'abstiennent aux élections, de ceux qui votent blanc, de ceux qui qui sont exclus du système? Moi, c'est ça ma préoccupation. Vous savez, c'est toujours pour ça que je me suis battue pour une assemblée constituante, pour changer les institutions, parce que personne s'y intéresse.
Stéphane Vernet, c'est donc un vrai parti, selon vous, une vraie formation politique?
Ah, ça c'est une question intéressante. Moi j'étais à la conférence de presse de rentrée de Christophe Castaner pour le mouvement La République En Marche. Et il a parlé de cette étude à ce moment-là, c'était au mois de septembre, en disant on a confié une étude vraiment d'importance pour qui va nous permettre de savoir qui sont nos militants. Et c'était un peu, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que c'est vrai que la petite musique, c'est de dire, ah oui, ils revendiquent aujourd'hui 400 000 adhérents, ce qui est énorme pour un parti politique. Et la critique souvent, c'est de dire, oui, mais c'est des gens qui cliquent, on ne sait pas vraiment qui ils sont, est-ce que c'est des vrais. Est-ce que c'est des militants en carton, etc. Et donc l'idée, c'était de dire, avec cette enquête, on va savoir enfin qui sont nos militants, nos adhérents, et on en tirera les conséquences. 8815 adhérents sondés sur un questionnaire qui fait 100 questions, ça aussi c'est énorme. Je trouve que vraiment
c'est une vraie enquête.
Vous disiez tout à l'heure 200 pages, c'est pas n'importe quoi. Après, par rapport à ce que disait Christophe Castaner au mois de septembre, pour se rassurer autour du mouvement en disant on verra bien qu'est-ce qui sortira du chapeau et j'en tirerai les conclusions. Moi, il y a une conclusion qui m'intéresse, c'est que 28% des adhérents jugent mauvaise la capacité du parti à prendre en compte leur opinion. Alors même que La République En Marche fait des efforts énormes pour trouver des nouveaux moyens d'être à l'écoute de la France, de ses militants, avec des enquêtes...
28%, tout à l'heure j'ai dit à tort majorité, mais c'est un nombre conséquent, c'est une part conséquente.
Il y a une majorité qui fait confiance.
Qui fait confiance. Oui, mais 28%, c'est quand même, c'est pas 6%, c'est pas 12. C'est presque un tiers. Hein, excusez-moi, j'extrapole, mais
c'est
27% critiquent le fonctionnement démocratique interne du mouvement. Je trouve que c'est des chiffres assez élevés.
Mais c'est logique pour un. Pardonnez-moi, là, je vais me faire l'avocate du diable. Contre-intuitivement, mais c'est logique qu'un militant qui, dans sa vie personnelle, a une sensation de pouvoir, d'être insatisfait de ce pouvoir. Et finalement, il vient dans un parti, il veut peser, et il s'aperçoit que les choses se font dans les superstructures, se font dans les médias, se font au gouvernement, se font en fait à l'Élysée, en ce qui concerne ce parti-là. Et finalement, il se dit, où est ma place? Et en fait, cette angoisse démocratique, c'est le point commun, je pense, de tous les partis aujourd'hui, que ce soit En Marche ou que ce soit des gens qui sont très loin de la politique. C'est le point qui réunifie tout le monde, parce que tout le monde, à sa manière, est insatisfait de notre système démocratique.
Allez, l'angoisse démocratique, selon Raquel Garrido. Nous poursuivons sur l'analyse de cette enquête du think tank Terra Nova dans un instant, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Romain Dezec.
Une fusillade à Toulouse, quartier Papus, dans le sud de la ville. Deux hommes en scooter ont ouvert le feu sur la terrasse d'un bar. Peu après 17h, un homme de 35 ans est mort. Deux autres sont grièvement touchés. Les auteurs des coups de feu ont pris la fuite. Emprisonné à Vendin-le-Veil, dans le Pas-de-Calais, Redouane Faïd débute une grève de la faim. Le braqueur a envoyé une lettre au magistrat. Il conteste l'incarcération de sa logeuse et de membres de sa famille, interpellés pour l'avoir aidé dans sa cavale. Les marchés financiers brésiliens, visiblement satisfaits du premier tour de la présidentielle. Les 46% du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont fait grimper la bourse de Sao Paulo de 6%. Le candidat veut privatiser plusieurs grandes entreprises publiques et réduire considérablement les dépenses de l'État. Quasiment pas de perturbations demain sur le trafic RATP et SNCF, et ce malgré l'appel à la grève lancé par la CGT Cheminots, Sudrail et Force Ouvrière. Seules quelques perturbations sont attendues en Midi-Pyrénées, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Demain est une journée de mobilisation interprofessionnelle contre la politique du gouvernement. Pas de surprise, Griezmann, Mbappé, Kanté et Lloris font bien partie de la liste des prétendants au Ballon d'Or. Réponse le 3 décembre. Kylian Mbappé qui reviendra pour la première fois après son sacre de champion du monde à Bondy, sa ville natale, ce sera le 17 octobre.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
François Dorcival, nous commentons toujours cette enquête de Terra Nova sur les adhérents de La République En Marche. Pour vous, c'est une sorte de factory, comme disent les anglo-saxons, de laboratoire d'idées, ou c'est un peu un parti godillot comme on l'a connu jadis, notamment au RPR?
Écoutez, il y a beaucoup d'idées dans cette enquête, et je vais essayer de revenir sur deux points. La première, c'est que cette population militante est d'abord urbaine. Ensuite, je voudrais que notre ami Bruno nous rappelle l'âge moyen de ces électeurs.
Bruno,
51% ont entre 25 et 49 ans.
Voilà. Donc, effectivement, c'est ça qui est très, très intéressant, c'est que nous sommes devant un électorat qui est en train de sortir de la fragilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est un électorat qui, effectivement, provient d'un certain nombre d'autres familles. C'est là qu'il avait ses racines. Et il quitte ses racines au cours d'une campagne électorale particulière, celle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré dans l'enthousiasme à une personnalité qui incarnait ce dont ils avaient envie, sans communiquer nécessairement les uns avec les autres.
Vous voulez dire quoi ? Ça part d'une personnalité, une seule ?
Ça part entièrement d'une personnalité.
Éminemment d'une personnalité, bon. Emmanuel Macron.
Et cet électorat, qui est donc urbain et qui n'est pas représentatif de l'ensemble de la France, loin de là, manque de racines politiques. Ça n'est pas la même chose dans les vieilles familles politiques, d'où ils sont issus, mais comment vont-ils s'agréger ? Et c'est ça tout le problème des scrutins à venir. Ouais. Pour le moment, ce qui s'est passé, c'était très simple. Ouais. C'était élection présidentielle, je justifie la campagne, élection législative, c'est le prolongement. Mais la prochaine fois, comment est-ce que ça va
se passer ? Bruno Cotterêts, on peut quantifier, oui. Vous avez des éléments de réponse, il n'y a pas assez de racines pour la
bien sûr, je voudrais deux éléments par rapport à ce que vient de dire François Dorcival. Le premier, c'est certain que la figure emblématique d'Emmanuel Macron, que l'attachement des adhérents à Emmanuel Macron, à ce qu'il a représenté à leurs yeux, ce qu'il continue de représenter, est un élément absolument essentiel, structurant, très important de l'engagement à La République en marche. Notre enquête a multiplié les indicateurs sur la manière dont ils perçoivent l'image d'Emmanuel Macron. Nous avons réalisé aussi des entretiens auprès d'un certain nombre de marcheurs et on a vu très, très, très fréquemment apparaître cette donnée, effectivement, de cette campagne présidentielle qui a révélé Emmanuel Macron aux yeux de très nombreux marcheurs qui continuent aujourd'hui de le soutenir de manière assez élevée. Je pense que beaucoup de leaders de partis souhaiteraient être soutenus comme l'est Emmanuel Macron dans son organisation. Il y a des critiques, bien sûr.
Alors que ça faiblit un peu. Hein,
voilà, il y a des critiques, bien sûr. Le deuxième point, c'est sur les racines. Là où c'est un peu compliqué, c'est que ce sont des adhérents qui, bien sûr, ont des repères idéologiques. Ils ne sont pas démunis de boussole idéologique. Ce n'est pas des gens qui sont venus un peu, on va dire, il y avait de la lumière, je suis rentré en marche. Ce n'est pas du tout ça. Ils sont rentrés très souvent sur une logique qu'on ne m'avait jamais demandé mon avis à moi. Et ils ont pu être très sensibles à la campagne. Ils ont des repères. Mais effectivement, là où François a raison, c'est que tout l'enjeu est de savoir si, au fur et à mesure que le temps va passer, est-ce que le repère continuera d'être la personne d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un corpus idéologique qui est être marcheur. C'est être ça, peu importe le leader du parti.
Stéphane Vernet, là-dessus, vous pensez que la vénération des marcheurs à l'endroit d'Emmanuel Macron est une forme de fragilité pour cette formation ?
Ou il peut y avoir encore plus qui va se former ? On peut le voir aussi comme une force et comme un socle d'inconditionnel. C'est pas forcément une fragilité. Le précipité, il peut se faire autour des européennes. Ce qu'on voit dans l'étude aussi, c'est que l'attachement à l'Europe, à la construction européenne, c'est la valeur qui arrive en tête au sein de cet échantillon. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que finalement le mouvement pourrait se structurer au-delà de la seule personnalité d'Emmanuel Macron ? Peut-être que la phase qui s'ouvre autour de la campagne et cette élection qui arrive pourrait être quelque chose qui commence à agréger.
Avec la difficulté que cette position très eurobéate est très minoritaire dans la société française. Donc il y a une dichotomie entre l'exercice d'un pouvoir qui est total en 5e République et effectivement la mesure proportionnellement au reste de la population d'une ligne politique qui est exécutée au gouvernement aujourd'hui.
Peut-être que ce sont des adhérents qui sont pro-européens tout simplement.
Ils le sont. Ce que je dis, c'est que ils sont minoritaires. Oui, donc la difficulté, c'est que ça va se voir normalement aux élections européennes.
C'est en effet... On va avoir le cumul de deux éléments. D'une part, leur adhésion intellectuelle et politique à l'Europe. Parfait. Et ils sont derrière donc un président de la République qui incarne ça. Mais, tout de même, si le résultat des élections européennes n'est pas bon pour eux, c'est-à-dire qu'ils se trouvent soit équivalents du Front National ou du Rassemblement National, ou derrière... Comme ils manquent de racines, ils vont se démoraliser plus vite que les autres. Et ça, je pense que c'est un risque. pour l'exécutif actuel.
Allez, dans la deuxième partie des informés de France Info, nous évoquerons le voyage de Marine Le Pen en Italie. C'est lié effectivement à la campagne ou la pré-campagne des européennes. Nous parlerons de la situation au Brésil et nous reviendrons éminemment sur le rapport des experts du GIEC sur le climat et leur message très alarmiste. A tout de suite après la météo et le rappel de l'info sur France Info.
Et si, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte, d'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Avoir mal au dos, ça arrive. Ne pas faire son footing, ça arrive souvent ça. Ça arrive aussi d'avoir du mal à arrêter de fumer. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous vous retrouviez sans solution.
Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimer avec 2M, c'est vous permettre de proposer à vos salariés un coaching santé personnalisé pour prendre soin de leur dos, de leur nutrition et pratiquer une activité physique. Malakoff Médéric, on vous aime avec 2M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com.
La météo avec vous, les prévisions, Elodie Calac pour Météo France.
Attention aux orages près de la Méditerranée, ils persistent ce soir et se décalent lentement vers l'ouest. Ils gagnent l'Hérault cette nuit, puis l'Aude, les Pyrénées-Orientales. Ils peuvent être violents avec des pluies intenses, donc des quantités d'eau importantes en peu de temps, soyez prudents. Demain, ce temps persistera, le vent sera parfois fort. Sur les autres régions du sud, ce sera plus variable. Quelques pluies seront possibles entre Midi-Pyrénées, le sud du Massif central et le Var. Sur la moitié nord, ce sera beaucoup plus calme, on profite d'un beau soleil après les brouillards du matin. Il fera seulement 4 degrés à Reims et Alençon, 5 à Metz, 9 à Paris, Lyon, Agen, mais 16 degrés à Nice. L'après-midi, ça montera bien, il ne fera pas moins de 21 à 27 degrés.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Grabé.
Bonsoir à tous. Google annonce la fermeture de son réseau social Google Plus aux particuliers après la fuite possible des données personnelles d'un demi-million d'utilisateurs. Révélation ce soir, quelques jours après une faille détectée chez Facebook. Cette fuite, selon Google, aurait débuté en 2015 avant d'être découverte et réparée en mars dernier. Selon le groupe, rien ne permet d'affirmer que cette faille de sécurité a été mise à profit par des pirates. Il dénonce l'incarcération de plusieurs de ses proches. Redouane Faïd entame une grève de la faim depuis la prison de Vendin-le-Vieil où il est détenu depuis la fin de sa cavale mercredi dernier. Il demande au juge en charge de l'instruction de son dossier de revenir sur la détention notamment de celle qu'il a logée pendant que les autorités étaient à sa recherche pendant 3 mois. Un homme de 35 ans abattu par balle sur la terrasse d'un bar de Toulouse. Ça s'est passé vers 17h dans le quartier de Papus au sud de la ville. 2 autres personnes ont été blessées dont une grièvement. Elles ont été prises pour cible par 2 hommes à scooter qui ont réussi à prendre la fuite. Au Brésil, il est passé tout près d'une élection dès le premier tour à la présidentielle. Un peu plus de 46% des voix pour Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, très largement en tête devant le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad. 46%, un score consternant pour ces Brésiliens que vous avez rencontrés, Olivier Poujade.
Le premier geste de Mariella en sortant de chez elle, se rouler une cigarette. Habituellement, elle ne fume pas le matin, elle porte des lunettes noires, elle est encore bouleversée par le résultat d'hier.
Je suis
très pessimiste, je n'attends rien de bon. Il ne s'agit pas de discussion politique pour ce peuple qui a voté. Ils sont juste sensibles à une propagande qui donne l'illusion qu'elle va régler la violence. Mais ça n'est pas comme ça qu'on va régler le problème, pas en mettant des militaires dans la rue. C'est vraiment triste.
Liane non plus n'en revient pas, mais elle concède qu'elle ne voudra pas choisir dans 3 semaines entre ces 2 candidats, à commencer par Bolsonaro.
Une personne avec ce genre de posture, qui prononce les mots qu'il prononce, de soutenir la torture, d'armer la population, c'est inacceptable. C'est une honte. Mais en même temps, je ne peux pas voter pour un parti, même si son candidat est plus modéré, mais un parti dont l'économie a conduit le pays à la pire récession de son histoire.
Ce sont des électeurs comme Liane que Fernando Haddad devra convaincre pour parvenir à former un front républicain essentiel pour lui s'il veut contrer les idées d'extrême droite de Bolsonaro.
Reportage d'Olivier Poujade, 20h33 sur France Info. Tout de suite la suite des informés avec Jean-François Aquil.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquil.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Raquel Garrido, chroniqueuse au Terrien du Dimanche et auteur du manuel de guérilla médiatique chez Michel Lafond. Avec vous, Bruno Cotrès, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et l'un des auteurs du rapport de Terra Nova sur les militants de La République en Marche, avec François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. La question de ce soir aussi, c'est mais qui est donc le modèle de l'autre ? Marine Le Pen est allée rendre visite ce matin à Matteo Salvini à Rome, au siège de l'UGT, syndicat proche de la Ligue, pour parler économie et sociale dans l'Europe des nations et surtout européenne. Le ministre italien de l'Intérieur fait un tabac dans les sondages en Italie. La présidente du Rassemblement national, qui a jadis inspiré le leader de la Ligue, voulait surtout s'afficher avec lui en vue de ses élections à venir. Marine Le Pen.
Nous sommes aujourd'hui à un moment historique. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain. C'est l'émergence d'une Europe des nations, d'une Europe du respect, d'une Europe des protections, c'est-à-dire celle pour laquelle nous nous battons depuis de nombreuses années, notamment avec Matteo Salvini.
François Dorcival, Le Pen, Marine, Salvini, ce même combat ?
Oui, même combat. Petit détail quand même, il ne l'a pas reçu au ministère de l'Intérieur. Il ne l'a pas reçu en marge de la conférence qu'ils avaient entre ministres de l'Intérieur. Il l'a reçu dans un local de syndicat, c'est-à-dire un local politique. Cela dit, il l'a bien reçu. Et donc, oui, il se rappelle les combats qu'ils ont menés ensemble. Maintenant, Salvini est dans une position gouvernementale, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle se projette sur sa campagne pour les européennes, tandis que Salvini, il a déjà gagné. Son problème, c'est éventuellement de confirmer.
Stéphane Vernet, Salvini, c'est le vrai leader de cette droite, des droites européennes ?
Alors, avant de savoir qui va être le leader de ces droites européennes, la question c'est est-ce que quelles sont les chances de ces droites et quelles sont les chances de ces droites de s'agglomérer et de faire quelque chose aux européennes l'année prochaine. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un vrai risque. Il faut écouter ça parce que aujourd'hui, si vous voulez, au Parlement européen à Strasbourg, vous avez 3 groupes de souverainistes, droite, donc plus ou moins durs entre ceux qui veulent sortir de l'Europe, ceux qui veulent la mettre en panne et ceux qui veulent la réduire aux acquêts et pour revenir à des États-nations. Et ces 3 groupes, si vous les prenez, si vous les conjuguez, en fait, ça représente quand même 150 postes de députés aujourd'hui.
Oui, mais sur 750.
Sur 750. Oui. 150 sur 750, ouais, 50, ils n'ont pas la majorité. Sauf que le parti majoritaire, c'est le PPE, c'est le Parti Populaire Européen. C'est le parti dans lequel siège aujourd'hui Viktor Orban. Et un certain nombre de...
Jusqu'à nouvel ordre.
Non, mais justement...
Oui, ils vont pas tenter.
Justement, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Et en fait, on voit bien, vous avez En Marche, via Castaner, Emmanuel Macron lui-même, qui font le tour, ils font la tournée des capitales européennes à la recherche des progressistes pour créer une grande alliance. Mais en même temps, vous avez les nationalistes qui, eux, font la même chose. C'est ce qu'est en train de faire Marine Le Pen. Et la problématique, si vous voulez, c'est que ils ont une chance réelle de créer une force qui sera peut-être pas la première, mais qui aura suffisamment de poids et avec un projet très simple qui consiste à mettre en panne la machine.
Alors justement, Raquel,
c'est une vraie menace.
Raquel Garrido, le créneau eurosceptique, voire plus, il est de quel côté de l'échiquier au fond ?
L'extrême droite, longtemps, a incarné en France la seule critique de l'Union européenne, mais ce leadership-là est mort en 2005, puisque lors de du référendum pour ou contre le traité constitutionnel européen, rappelez-vous, c'est plutôt les idées progressistes, humanistes, pour plus de social, plus de démocratie, qui ont pris l'ascendant. Donc en France, aujourd'hui, c'est quand même autorisé, hein, depuis maintenant, depuis 13 ans, c'est autorisé d'être profondément hostile à la marche actuelle de l'Union européenne, tout en ayant des idées d'émancipation, de partage, etc. Moi, je suis quand même frappée par ce que vous venez de dire à propos du risque, du risque de l'extrême droite en l'Union européenne. L'extrême droite, elle existe, c'est évident, elle existe dans tout un tas de pays de l'Union européenne, mais il n'y a pas de risque parce que, pour une raison très très simple, c'est que c'est une élection proportionnelle. C'est une élection proportionnelle. Et en France, le gouvernement fait tout pour qu'on réfléchisse dans les catégories du deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire plus que deux personnes au deuxième tour et une latéralité qui se résume à deux forces pour ou contre Macron. Européennes, en France, oui. Moi, je vais pouvoir voter exactement pour ce que je pense. Tout le monde sera candidat. C'est une respiration démocratique, paradoxalement, parce qu'en fait, cette élection n'entraîne pas un pouvoir réel pour les Français. Mais au moins, pour une fois, contrairement à l'élection présidentielle, je vais pouvoir mettre un bulletin dans l'urne qui correspond précisément à ce que je pense. Le ticket d'entrée est beaucoup plus facile que dans tous les scrutins intérieurs, vu que c'est une circonscription unique au plan national, que c'est 5% pour entrer. Et puis à partir de là, chacun va se compter et on verra bien en France combien pèse ou pas l'extrême droite par rapport à la France insoumise, par rapport à Macron et par rapport à la droite classique.
Juste un tout petit mot, je suis d'accord, mais sauf qu'il y a 27 pays qui vont voter le même jour et ça ne se joue pas qu'en France, ça se joue à l'échelle de l'Europe et je ne suis pas sûr.
Oui, mais c'est proportionnel partout.
Ah oui, mais je suis pas sûr que les proportions soient les mêmes partout.
Bruno Cotterêts. Vous savez, Jean-François, je suis allé voir hier la conférence donnée par Roberto Salviano, l'auteur de Gomorra, au Festival du Monde, et il a dit...
qui est notre invité de France Info.
Il a dit, regardez l'Italie, elle est votre avenir. Il réfléchit, lui, à cette espèce de... les ténèbres de la mafia, le crépuscule démocratique, pour lui, qu'on voit en Italie en ce moment. Il dit, regardez, c'est votre avenir, en fait.
Effectivement, oui, à part qu'en Italie, précisément en France, en Italie, l'erreur qu'a fait la gauche, c'est de ne pas épouser le dégagisme.
La question du rapport des citoyens à l'Europe, c'est vrai, j'abonde dans le sens de Raquel tout à l'heure. L'opinion française, quand on la regarde aujourd'hui sous l'angle de ce qu'elle pense de l'Union européenne et de l'Europe en général, on ne peut pas dire qu'on a un tableau qui est extrêmement florissant avec une population française qui serait dans une demande d'intégration européenne. Le tableau ne va pas si bien que ça du point de vue du rapport des Français et du regard que les Français portent sur l'Europe.
En conséquence de quoi? Si vous ne voulez pas une majorité FN, il vous reste plus que la France insoumise. Si vous voulez critiquer l'Union européenne tout en étant conforme à des idées de liberté, on va dire, droits de l'homme à peu près présentables.
20h40 sur France Info. Nous allons poursuivre dans un instant après le rappel de l'info avec vous, Romain Dezec.
Le braqueur Redouane Faïd entame une grève de la faim dans sa prison de Vendin-le-Vieil, l'une des plus sécurisées de France. Il réclame la fin de la détention pour ses proches. Son frère, deux de ses neveux et sa logeuse, tous sont soupçonnés de l'avoir aidé durant sa longue cavale. Un repreneur pour le spécialiste du jouet Toys R Us. Le tribunal de commerce d'Evry choisit la société Gelège, créée par le fonds Cyrus Capital et l'enseigne française Pickwick. Le plan prévoit la reprise de 44 magasins et de 1036 salariés. 4% d'augmentation, voilà la proposition de la compagnie Air France aux salariés répartis sur 2018 avec un effet donc rétroactif et 2019. Annonce faite par les syndicats, mais il ne s'agit que de discussions et non de négociations officielles. L'intersyndicale réclame, elle, une hausse de 5% des salaires correspondant au taux d'inflation entre 2012 et 2017. La bourse de Sao Paulo bondit de 6% suite aux résultats du premier tour de la présidentielle au Brésil. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro est en tête avec 46% des voix, loin devant le candidat de Lula, Fernando Haddad, avec 29%. Jair Bolsonaro prévoit notamment la privatisation des entreprises publiques et une réduction drastique des dépenses. Trois départements méditerranéens placés en vigilance orange aux pluies et aux orages. Cette nuit, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude, on attend par endroits 80 mm de précipitations.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Encore un mot sur la question. Bruno Cotterêts, à l'instant, Raquel Garrido évoquait l'offre de part et d'autre, hein, eurosceptique, pour ne pas dire parfois même europhobe. De récentes enquêtes, même si ce ne sont que des sondages et nous sommes loin du scrutin, donnaient quand même une Marine Le Pen, un Rassemblement National très haut, très élevé.
Sur la question de l'Europe, le Rassemblement National, d'une certaine manière, comme d'autres formations politiques, mais lui en particulier, joue un peu à domicile. C'est un thème qui est un thème constant dans le programme du Rassemblement National, dans sa stratégie politique que de viser les élections européennes. Faut-il rappeler que le Rassemblement National, Front National à l'époque, a gagné les élections européennes de 2014, qu'il a envoyé la délégation la plus importante de députés français au Parlement européen, et qu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, le Rassemblement National, dans les intentions de vote et dans les 3-4 enquêtes disponibles qui ont été réalisées, est au coude à coude avec la République En Marche, ouais. et le Modem. C'est-à-dire deux formations ensemble qui, elles aussi, jouent à domicile sur la question de l'Europe. Donc on voit que le Rassemblement National est loin d'être complètement enterré par l'élection présidentielle.
Alors, il n'y a pas de raison, oui. Ils sont arrivés au deuxième tour. C'est quand même logique qu'ils ne soient pas enterrés. Un mouvement qui représente 20% des électeurs français, oui, il n'y a aucune raison qu'un an et demi après, ils soient enterrés.
Il joue à domicile, est en force là-dessus.
Non, mais ce n'est pas une question de jouer à domicile, c'est une question de prendre en compte la réalité des masses électorales qui existent en France. Il n'y a aucune raison que ce mouvement, hein, qui existe culturellement et intellectuellement dans ce pays, disparaissent comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas, à partir de là, en tirer des théories fumeuses selon laquelle il y aurait plus en face qu'Emmanuel Macron. Alors, il y a une espèce de rassemblement des progressistes. Le gouvernement dit ça. Vous avez vu les efforts du gouvernement pour latéraliser la politique entre eux et le FN.
Je retiens la remarque que notre ami Bruno a entendue hier au Forum du Monde, c'est-à-dire de l'auteur de Gomorrah, disant ce que nous avons en Italie, c'est ce qui vous attend pour l'avenir. À ceci près que ce qui s'est passé en Italie, c'est l'alliance entre deux contraires qui n'avaient qu'un point commun, en effet, c'était la défiance à l'égard de l'Europe.
La Ligue et le Mouvement 5 étoiles.
Et oui, Ligue et Mouvement 5 étoiles. Et un certain nombre de décisions du point de vue pouvoir d'achat, social, etc. Mais ce sont deux mouvements opposés. En France, même avec la proportionnelle, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir une telle coalition. Sauf si Raquel se disait qu'en effet, il y a possibilité d'une alliance avec le Front National,
ce que je ne crois pas. Absurde, voilà. Absolument. Merci.
Impensable, Raquel Garrido.
Parce qu'effectivement, la grande différence entre la France et l'Italie, c'est l'existence de la France insoumise et un tournant, je vais utiliser le terme à dessein provocateur, populiste, d'un courant qui est néanmoins pour des politiques qui sont pacificatrices dans la société au lieu d'alimenter la guerre civile, la détestation contre les musulmans, les immigrés, etc. Voilà, ça existe en Italie. La gauche, que ce soit le PS ou le PC, est passé armes et bagages côté Commission européenne depuis un certain nombre d'années. Alors, et c'est la raison pour laquelle elle a tout simplement disparu.
Ce qui s'est produit en Italie, ce qui se produit ailleurs, cette europhobie à la droite de la droite, est-ce là une lame de fond mondiale? Je ne parle pas de l'europhobie, mais je parle de la droitisation.
L'europhobie, Jean-François Attali, c'est quoi ce terme encore? Est-ce qu'on a le droit d'être critique sans être dans une peur? C'est pas une question de peur, hein. On peut aussi être très, au contraire, informé, renseigné. C'est de la critique. C'est pas du scepticisme. C'est pas de la phobie.
Les chercheurs parlent de contestation de l'Europe et plus d'euroscepticisme.
Oui. Merci les chercheurs.
Vous avez dit l'euro.
Contestation.
L'eurocontestation. Les formes de la contestation.
Allez, on va reprendre l'eurocritique. Ouais. En ce qui concerne les mouvements à la droite de la droite, s'agit-il d'une lame de fond mondiale? Tout à l'heure, Romain Dezec rappelait le résultat du scrutin du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Je vous propose d'abord d'entendre dans l'ordre, donc les Jair Bolsonaro, vous le savez, arrivé en tête avec 46% des suffrages. C'est le leader du Parti Social Libéral et son challenger, à savoir Fernando Haddad du Parti des Travailleurs, qui a totalisé 29%.
Je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce problème avec le vote électronique, j'aurais été élu président dès ce soir.
Ces résultats doivent nous interroger, car ils montrent à quel point notre démocratie est en danger.
Stéphane Vernet, le Brésil n'échappe pas à la vague populiste mondiale.
Non, manifestement non. Là, on voit bien que ce candidat qui fait 46% au premier tour a toutes les chances de devenir le nouveau président de la République au Brésil, sur un discours qui fait que on le compare aisément à Trump, avec ses sorties, ses saillies sur les femmes, les homosexuels, les descendants d'esclaves. Enfin bon, voilà. Et on est quand même face à quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour la période de dictature au Brésil. Et qui va devoir sa victoire manifestement à un dégagisme, c'est-à-dire que au-delà du populisme, c'est surtout ce grand courant mondial, c'est celui du dégagisme, c'est-à-dire le sentiment que les vieilles recettes fonctionnent plus,
parce que les autres systèmes échouent, enfin les systèmes dits
traditionnels. On veut autre chose. Voilà.
Alors en tout cas, ce qui est frappant, c'est que les Brésiliens savent mieux que nous, le contenu du discours de celui qui a obtenu 46% hier. Donc, tout ce que nous venons de dire, tout ce que Stéphane vient de rappeler, ils le savent. Et néanmoins, 46%. Pas 30, dont on parlait encore samedi. 46. Tout près, en effet, d'un succès au premier tour. Or, cette vague-là, dégagisme, certes, avec les caractéristiques populistes, enfin, c'est dans un pays où, jusqu'à présent, les partis qui étaient au pouvoir ont surtout déclenché une immense récession. Mais effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais lundi dernier, au Québec, une élection, alors là, qui a également dégagé et mis installé au pouvoir, un leader, entre guillemets, également populiste. Les élections en Suède le mois dernier, il y a 18% de droite radicale dure qui est entrée au Parlement, c'est-à-dire qu'ils n'ont cessé de progresser. Et dimanche prochain, nous allons voir ce qui va se passer en Bavière. Donc, cette vague, elle est là.
Bruno Cotterêts, vous, dans la continuité de ce que dit à l'instant François Dorcival, il y a une forme d'angoisse mondiale.
Pas d'angoisse, c'est les gens qui choisissent quand même.
C'est clair qu'on voit la triple pression, à la fois de toutes ces années de crise économique. Ça ne date pas d'ailleurs que de la récession de 2008. Ça remonte à bien avant. Lorsqu'on regarde le développement de ces mouvements partout dans le monde, on peut même identifier un tournant quelque part au début, milieu des années 1990. La deuxième pression, c'est la pression, bien sûr, des scandales, de la corruption, liée sans aucun doute aussi à l'incapacité des pouvoirs à régler les grands problèmes économiques dans des périodes de crise. Donc, il est inadmissible et de plus en plus intolérable de voir le pouvoir corrompu. Et puis, la troisième pression, qui est celle de cette globalisation, de ce monde global qui semble échapper à tout contrôle, aux individus, aux partis politiques. Et donc, cette triple pression partout a soumis les équipes en place, les partis politiques traditionnels, à une pression tellement intense qu'on voit effectivement une sorte de déferlante dégagiste s'exprimer dans de très nombreux pays.
Raquel Garrido, encore un mot là-dessus, sans être trop pessimiste ce soir, c'est lundi. Tous les systèmes, au fond, qui ont été testés ont plus ou moins échoué. On peut le constater quand même.
Non, je dirais pas ça. Et moi, je tiens à souligner, alors, moi, je suis, vous savez, né au Chili. L'histoire de ma famille, c'est celle du coup d'État contre Salvador Allende. Et j'oublie pas qu'en Amérique latine, vous avez une oligarchie, voilà, des marchés qui savent très très bien surfer sur le dégagisme pour, au final, que rien ne change et que leurs privilèges restent intacts. Le Brésil est aujourd'hui le pays le plus inégal d'Amérique latine en termes de redistribution des richesses. Les riches ne paient pas d'impôts au Brésil ou si peu. Mais c'est en même temps un énorme marché. Voilà, c'est un énorme marché. C'est un pays continent avec une croissance très forte. Et pour tous les prédateurs, c'est un pays d'Amérique latine dans lequel il convient d'aller faire son marché dans les entreprises qui sont pas encore privatisées. Ouais. C'est ça la réalité. Et ce qui est frappant, c'est que comme toujours en Amérique latine, ceux-là, ces prédateurs-là, sont prêts à donner le pouvoir à des options politiques autoritaires, proto-fascistes, pour garder leur privilège.
Mais oui, ça n'explique pas les 46%. Je suis désolé, les oligarchies, moi je veux bien, mais c'est peu de gens l'oligarchie. Oui. Comment font-ils pour avoir 46%?
Parce que d'abord, elle surfe sur... elle profite d'échecs de gouvernements antérieurs. Le Parti des Travailleurs, il a incarné un espoir formidable quand Lula avait été élu en 99. Il a dit Esperanza venceu o medo. Ça veut dire, pour la première fois, l'espoir avait vaincu la peur de la dictature. Mais ils n'ont pas fait de constituante. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils se sont totalement social-démocratisés.
20h51 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Romain Dezec.
Édouard Philippe est à Lyon ce soir. Il préside dans le fief de Gérard Collomb le dîner de travail des ministres de l'Intérieur des 6 plus grands pays de l'Union européenne. Le remaniement devrait être présenté demain dans la journée à la veille du Conseil des ministres. Il ne s'alimente plus. Redouane Faïd débute une grève de la faim dans sa prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Le braqueur a envoyé une lettre au magistrat. Il conteste l'incarcération de sa logeuse et de membres de sa famille interpellés et soupçonnés de l'avoir aidé dans sa cavale. Le Nobel d'économie remis à deux Américains défenseurs de la croissance verte, William Nordhaus et Paul Romer, récompensés pour avoir mis au point des méthodes alliant croissance et écologie. Le titre leur est décerné alors même que le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, a rendu un rapport alarmant sur le réchauffement climatique et l'absence de véritables changements. Si vous utilisez le réseau social Google+, sachez qu'il va fermer. Les données personnelles d'un demi-million d'utilisateurs pourraient avoir été exposées à des développeurs extérieurs entre 2015 et mars de cette année. Google assure qu'aucun élément ne laisse supposer le détournement de ces données. C'était l'un des seuls champions du monde à ne pas l'avoir fait. Kylian Mbappé reviendra à Bondy, sa ville natale, pour fêter son titre mondial. Ce sera le 17 octobre. Mbappé qui, comme Griezmann, Kanté et Lloris, fait partie de la liste des prétendants au Ballon d'Or.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et si la Terre brûlait plus vite encore, c'est ce que semblent dire les experts du GIEC sur le climat. Je vous propose d'écouter, c'est très bref mais significatif, Jim Ski, qui est coprésident du groupe de travail du GIEC.
Les émissions de dioxyde de carbone doivent baisser de manière conséquente d'ici 2030 pour éviter un réchauffement de plus de 1,5 degré Celsius au milieu du XXIe siècle. Et cette baisse devra être accompagnée de larges extractions de CO2 de l'atmosphère.
Stéphane Vernet, ça va trop vite. Et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on nous a dit. On parlait de l'horizon 2100 à chaque fois.
Non, mais oui, ça va beaucoup trop vite. C'est une menace comme jamais pour l'histoire, dans l'histoire de l'humanité. Oui. Mais en même temps, il y a deux façons de regarder le.
Mais en même temps.
J'ai pas fait exprès. Il y a deux façons de regarder ce rapport du GIEC. C'est-à-dire, c'est de dire, oui, si on ne fait rien, on a pris du retard, ça va pas assez vite. Si on ne fait rien, on sera pas à la limitation de 1,5 degré de réchauffement, et c'est dramatique, les conséquences sont dramatiques. Mais dans ce rapport, il y a aussi tout un volet qui dit c'est pas trop tard. On peut encore atteindre cet objectif de 1,5 avec de la réforestation, avec l'utilisation de sols. C'est ce que vient de dire la personne que vous avez montré dans cet extrait. C'est-à-dire que c'est un message d'alerte qui est aussi destiné à dire c'est pas trop tard, on peut encore y arriver à condition de prendre des mesures radicales et très importantes aujourd'hui.
Oui, mais c'est toujours pareil, c'est à condition de, François Dorcival, le temps n'est plus constant.
Il faut rester optimiste.
C'est plus le constat.
Stéphane
là,
a raison.
Oui, il a raison. Non. Nous sommes d'accord.
Mais bien sûr. D'abord, l'apocalypse, et ça évidemment Raquel le sait très très bien, c'est un merveilleux argument de guérilla médiatique. Parce que le GIEC est un spécialiste. Il ne vous a jamais donné, depuis l'origine de ses rapports, une bonne nouvelle, le GIEC. C'est un accumulateur de mauvaises nouvelles.
La situation
nouvelles.
Se dégrade quand même assez rapidement ou pas?
Mais vous écoutez, qui observez la vie en général. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des voix en face du GIEC. On a uniquement l'information du GIEC. On ne sait rien de l'autre. Alors, nous constatons des choses, très bien, mais pour autant, nous sommes devant l'apocalypse et, a priori, nous sommes perdus. Je signale quand même que l'espèce humaine, par rapport aux d'autres espèces animales, elle a pour particularité de savoir s'adapter. Oui, s'adapter. Vous croyez que le réchauffement climatique, c'est une nouveauté? Vous ne croyez pas qu'on a traversé...
Vous êtes un climato-sceptique, François Dorcival.
Un petit peu quand même. Non, ce que j'espère, c'est que nous ayons des avis qui viennent équilibrer ceux de l'apocalypse.
Mais François Dorcival, pardonnez-moi, mais dans l'histoire des espèces, Garrido. Ce sont les espèces qui s'adaptent, pas à l'humanité. L'humanité peut être décimée. Bien sûr, la Terre survivra, mais sans êtres humains. Donc j'imagine que vous avez, comme moi, un attachement à notre espèce.
Oui, j'ai un attachement à notre espèce.
Bon, à partir de là, il faut quand même réagir.
Oui, c'est ce que nous faisons constamment. Oui. Et grâce à quoi? Grâce à la technologie.
C'est vrai que c'est la cause la plus urgente. C'est très clair. Alors c'est vrai que ce matin, quand j'écoutais sur votre antenne d'ailleurs, le rapport du GIEC en disant « il n'est pas trop tard, 2020 ». Il reste deux ans. C'est vrai que celui qui entend ça est un petit peu perturbé par le contraste entre l'immensité de la tâche, de la responsabilité et un horizon d'action qui est un horizon assez court. On se doute bien que c'est une période beaucoup plus longue.
La COP21 définissait de trouver 100 milliards d'euros pour passer aux renouvelables en 2020, puis 100 milliards par an.
Voilà, donc il y avait une urgence à mobiliser là-dessus. Moi, j'en ai tiré la conclusion que pour François Drugy, il y avait quand même à la fois du pain sur la planche, et surtout lui qui s'est installé dans le fauteuil de ministre de l'environnement avec l'ombre d'un Nicolas Hulot qui a laissé ce message derrière lui en disant, au fond, on n'est pas assez ambitieux, on va pas assez loin, on met pas assez de moyens, et si moi, je n'y arrive pas, point de suspension, donc on espère que François Drugy y arrivera.
Aura convaincu les Chinois, les Indiens, les Asiatiques.
Stéphane Vernet, encore un mot, champion de la Terre, Emmanuel Macron, au travail, non? C'est ça?
Ben oui, oui, mais il réussira pas tout seul. Il a beau avoir plein de qualités, être formidablement volontariste, non, il réussira pas tout seul. Mais encore une fois, je pense que si on s'arrête au côté catastrophiste, apocalyptique et tout sur la partie alarmiste, on est foutu parce que c'est un message qui risque aussi de nous amener tous collectivement à la résignation en disant c'est trop tard, donc on lâche.
Vous avez raison sur le fait qu'il y a des choses à faire. Le problème, c'est que ce gouvernement ne veut pas les faire. Ils sont, si vous voulez, autour d'un corps auquel il faudrait faire de la respiration artificielle. Et au lieu de le faire, ils disent vous pourriez gagner de l'argent en le faisant. Ça marche pas de gagner de l'argent en polluant la planète.
Je vous réinvite, je vous promets. La une de West France demain.
On parle des véganes.
Les véganes.
Ah, vous avez raison.
C'est l'actualité.
Vous avez raison.
François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
Ce sera Philippe de Villiers.
Philippe de Villiers, très bien.
Et il n'est pas vegan.
Je rappelle, Raquel Garrido, votre ouvrage, le manuel de guérilla médiatique paru chez Michel Lafon. Et je rappelle également, Bruno Cotteret, cette grande enquête de Terra Nova sur les militantes de La République en marche, à lire en ligne, bien sûr. À demain pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.